en quelque chose. Et par opposition, finalement, ben, on est, quand on est certain, par opposition, c'est le doute. Donc soit on peut être dans des certitudes, dans des convictions, on peut être dans le doute. Et finalement, quand on y réfléchit en tant qu'homme et en tant que femme, nous sommes animés de convictions. On peut être animé de convictions politiques, et en fonction de nos convictions, on va choisir, on va voter pour un parti politique, pour un candidat. On peut avoir des convictions dans le domaine amoureux. Je suis convaincue que j'ai enfin rencontré la meilleure pour ma vie et de faire le choix d'épouser cette personne. On peut être convaincu que quand je vais dans tel magasin, eh bien, c'est moins cher, les prix sont plus bas, alors je fais quelques économies, donc on va dans ce magasin-là. Quand il y avait la pénurie d'essence, eh bien, si on est convaincu que dans cette station essence, on peut avoir de l'essence, on y allait. Et là où on était convaincu qu'il ne pouvait rien y avoir, on n'y allait pas. Vous voyez où je veux en venir ? Les convictions vont animer des choix dans nos vies. Il y a un processus qui s'engendre et on va se mettre en action, on va être animé par des convictions. Il y a des convictions finalement dans nos vies aussi qui sont là, parce que on a vu nos parents répéter des choses jour après jour, année après année. Il y a des convictions qui sont là par éducation. Parfois, il y a des convictions aussi, on va nous répéter des choses, mais aussi parce qu'on ignore le reste. Et mon mari me donnait un exemple. Il a un collègue qui partait travailler en Inde. Et il voyait les enfants travailler très tôt, dès l'âge de... dès qu'ils peuvent travailler, de toute façon, 5-6 ans, même peut-être peu avant. Et en fait, cet homme demandera en disant, mais comment ça se fait que les enfants travaillent comme ça si tôt? Il y a autre chose. Et l'entrepreneur, en fait, répondait à ce monsieur en disant, mais non, il faut surtout pas qu'ils sachent qu'il y a autre chose qui existe pour eux. Et alors, on les fait travailler. Ils sont dans l'ignorance totale qu'ils peuvent avoir accès à une éducation, à des écoles, et qu'ils peuvent avoir un autre avenir que de travailler très tôt et d'être au service d'autres personnes. On peut être aussi dans des dépendances, dans des choses qui viennent complètement nous aveugler et on ne sait plus en fait ce qui est réellement conviction, pas conviction, ce que l'on croit. Donc il y a nos imprégnations, il y a nos éducations, il y a nos propres choix qu'on se forge tout au long de notre vie, mais il y a aussi l'ignorance. Et parfois on se plaît même à être des hommes et des femmes de conviction. On affirme avec certitude ce qu'on croit, ce qui est important pour nous. Et il a plu à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes convaincus de péché. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons un jour été convaincus dans notre nature pécheresse, convaincus que nous étions pécheurs face à Dieu. Et la conviction de péché, si nous devions la définir, c'est avoir cette certitude, cette conviction que nous avons commis des actes qui nous séparaient de Dieu. Et c'est avoir cette conviction que nous sommes dans cette nature pécheresse qui nous sépare de Dieu, qui a une distance, que nous commettons des fautes et que parfois nous pouvons chuter et être en distance avec Dieu. Et cela depuis la chute originelle, depuis qu'Adam et Ève ont péché. Le péché est venu entacher nos pensées, nos actes, nos paroles, notre corps. Et Paul dira même que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors finalement, si nous sommes tous pareils, si tous ont péché, si tous sont séparés de la gloire de Dieu, si nous sommes tous pareils, comment se rendre compte qu'il peut y avoir quelque chose de différent? Comment quitter cette ignorance? Comment se rendre compte que nous pouvons commettre des actes qui nous séparent de Dieu? Eh bien, la Bible nous dira dans Jean 16, versets 7 à 9, que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. Jésus dira, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, on reste là. Et finalement, eh bien, le Saint-Esprit va venir œuvrer dans notre cœur. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, verset 16, dira aussi « Je mets mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Finalement, à la lecture de la parole de Dieu, lorsque nous sommes là, eh bien, le Saint-Esprit peut frapper nos cœurs. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, nous voyons ce que Dieu nous demande d'être. Nous voyons les commandements, nous voyons les ordres de Dieu. Nous voyons l'Ancien Testament, la loi, le Nouveau Testament, tout ce que Jésus est venu dire, tout ce qu'il est venu établir comme vérité, comme fondement pour notre vie. Tout ce que les apôtres ont dit, tout ce qu'ils sont allés prêcher, ils sont allés prêcher pour donner la repentance. La conviction de péché vient en nous, vient faire une œuvre de repentance en nous. Petit problème technique. Et à la lecture de la parole de Dieu, parce qu'il y avait une loi avant, parce qu'il y a des ordonnances, parce qu'il y a des commandements, des ordres de Dieu, eh bien, il y a un interdit. Et Paul dira, parce qu'il y avait une loi, alors, eh bien, j'ai connu le péché par la loi. Et nous fonctionnons comme ça. Et à la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons être convaincus. Mais cette conviction, tout comme nos convictions politiques, tout comme nos convictions dans notre éducation, ce que c'est venu engendrer en nous, la conviction, quand nous sommes convaincus de péché, ce n'est pas juste pour dire « Ah oui, j'ai été éloigné de Dieu ». Ça va engendrer en nous un processus, et c'est un processus de repentance. Paul en parlera dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Il est dit que cette tristesse, que non, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes séparés de Dieu, lorsque nous nous rendons compte que cette noirceur dans notre cœur, ce que nous sommes face à Dieu qui est saint, eh bien ça provoque une tristesse en nous qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Nous sommes là ce matin et lorsque les équipes d'évangélisation partent, c'est pour la repentance, c'est pour annoncer la repentance, pour qu'il y ait une œuvre de repentance. Et dans l'origine grecque, le mot repentance, ça veut dire qu'il y a un changement, il y a une métamorphose de tout ce que nous sommes dans notre être intérieur, de notre nous, de ce que nous sommes, eh bien nous changeons. Et là où avant, où nous ne connaissions pas Dieu, où nous ne le connaissions peut-être que par éducation, mais pas dans le cœur à cœur, eh bien, d'un coup, nous le rencontrons, nous rendons compte de notre noirceur, de ce que nous avons commis. Et alors nous décidons de changer de direction. Nous décidons d'un coup de prendre en considération ce Dieu saint. Nous considérons désormais sa sainteté. Et alors nous allons changer nos choix. Nous allons changer nos objectifs. Nous allons changer notre manière de vivre. Il y a un changement. Et nous allons, dans cette repentance, eh bien, demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour nos péchés, pour qui nous sommes, pour ce que nous avons fait. Et nous allons pas supporter cette distance qu'il y avait entre lui et nous. Tout ce temps où nous avons pu faire notre vie sans lui. Et la repentance est différente du regret, est différente des remords. Le regret, c'est lorsque, par exemple, tu as volé, tu vas en prison. La conséquence de ton acte, c'est la prison, et tu regrettes d'être en prison. Pas forcément d'avoir volé. Tu te dis, c'est dommage, je suis en prison. Finalement, demain, tu ressors, si t'es pas convaincu de péché, tu te remets à voler. Et si tu retournes en prison, tu dis, zut, je me suis encore fait avoir. Et le remords, c'est l'autocondamnation. Je suis dans les remords, je me flagelle, je me condamne. Je suis là intérieurement, on est déçus de nous-mêmes. Mais on n'est pas forcément déçu par rapport à Dieu. Je peux être déçu de moi-même sur des choses, mais est-ce que pour autant, je rentre dans cette dimension que mes actes peuvent offenser Dieu ? Et les fruits de la repentance, lorsque finalement nous constatons bien, et si nous examinons nos vies, lorsque nous sommes dans des remords ou dans des regrets, et qu'il n'y a pas cette conviction de péché devant Dieu, face à Dieu, on ne change pas tellement. Par contre, quand on est convaincu, cette conviction va nous animer et alors nous allons changer de direction avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu et nous verrons plus tard avec la puissance du sacrifice de Jésus dans notre vie. Amen. Et donc, Jésus dira, il doit y avoir des fruits de repentance dans nos vies. Prenons Galates 5, versets 19 à 26. Et les fruits de la repentance, c'est de renoncer à notre chair, de dire non à notre chair, au penchant de notre chair, et de marcher en nouveauté de vie. Et Paul dira, parce que quelque part on peut se dire, mais c'est quoi le péché? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de mal? Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Donc tout ce qui renferme l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, tout ce qui est idole, tout ce que tu vénères dans ta vie, la magie, les inimitiés, les querelles, les disputes, les jalousies, l'animosité, on l'a entendu ce matin. Cette rancœur, cette tristesse qui va faire qu'on va changer nos relations, qu'on ne sera plus pareil les uns avec les autres. Les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, toutes les sortes d'excès, excès de table et les choses semblables. Parce qu'il y a bien des choses qu'on pourrait encore écrire et qui sont péchées devant l'Éternel. Alors il dira... Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, donc le fruit de la repentance, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, ont crucifié pardon la chair avec tous ses passions et avec ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Et je pense qu'on a fini, c'est ça. Et finalement, le fruit de la repentance, ce fruit de marcher en nouveauté de vie, de chercher la patience, de chercher le pardon, de chercher la paix, etc. Eh bien ça, c'est notre nouveauté de vie. Et nous répondons à l'appel de Dieu. Dans 1 Pierre 1, versets 14 à 16, nous répondons à l'appel de Dieu de sainteté. Ta conviction de péché t'amène à la repentance et la repentance t'amène à une vie de sainteté. Comme Antoine le disait, nous sommes pas parfaits, l'Église n'est pas parfaite, mais nous marchons de progrès en progrès, de transformation en transformation. Celui qui nous a appelés, donc comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais j'aimerais nous dire ce matin que la repentance, ben c'est pas juste au début de notre vie chrétienne. Parce que là, on peut dire oui, 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 oui. Mais la repentance doit être une œuvre en nous constante. Jour après jour, mois après mois, année après année. Nos vies doivent être marquées de l'œuvre de l'Esprit et de l'œuvre de la parole dans nos vies, où nous allons vers Dieu, où nous pleurons devant Dieu, où nous disons « mais j'ai commis tel acte, je te demande pardon », d'être en cette attitude de pardon devant l'Éternel pour ce que nous faisons, pour les fois où nous chutons malheureusement. La repentance est un style de vie. C'est un style de vie poussé par les convictions qui nous animent et qui nous amènent à chercher la sainteté. Et la question que Dieu veut nous poser ce matin, est-ce que nous savons encore entendre sa voix qui vient sonder et juger nos cœurs, qui vient sonder et juger nos pensées, qui vient sonder et juger nos paroles, qui vient sonder et juger nos actes? David avait pour vie un style de repentance. Sa vie était dans la repentance. Il a connu des gloires, il a connu des échecs, il a connu des péchés. Et pourtant, il connaissait Dieu. Son péché avec Bathsheba, quand on y réfléchit, il a été oint par Dieu. Le prophète est allé vers lui, il a oint, il savait qu'il était roi, qu'il était appelé à être roi, il a connu Dieu dans sa jeunesse, il a été appelé puissamment. Il a vu Dieu le protéger de Saül et de toutes ses menaces et de toute l'envie meurtrière de Saül. Il consultait Dieu. Il était alerte. Il était sous la menace. Il consultait Dieu.
Il savait dans quelle ville aller, dans quelle ville il ne devait pas aller. Il savait, il avait même la crainte de Dieu au point où deux fois il pourrait mettre à mort Saül et il ne le fera pas. Parce qu'il disait que la vengeance sera à l'Éternel. Il était dans cette crainte-là, mais il devient roi. Et là, alors qu'il se promène sur les toits de son palais, il voit la jolie femme Bathsheba, lui le roi, lui qui est là, qui connaît l'Éternel. Mais il voit cette femme, cette magnifique femme qui se baigne. Et là, paf, c'est l'engrenage du péché. Et ça peut tous nous arriver d'un coup. Hop, une chute, parfois on la voit même pas arriver. Peut-être parce que nous n'étions plus alertes, nous ne cherchions peut-être plus Dieu comme nous le cherchions autrefois. Et alors, prenons le psaume 51, versets 3 à 9, parce que David, il va être dans cet engrenage. Non seulement il va prendre la femme d'un autre, il va la connaître, mais après il va commanditer le meurtre de son mari. Et je disais encore, quand on regarde l'histoire, il fera même porter à Uri la lettre qui va le faire tuer, parce qu'il ordonnera à celui qui est dans l'armée de le placer à un certain endroit pour qu'il soit tué par l'ennemi, pour que le mari de Bathsheba soit mort. Non seulement il connaît l'infidélité, mais il commet un meurtre avec préméditation. Il écrit la lettre qui va tuer l'époux de Bathsheba. Et alors le prophète Nathan va venir. Il va lui faire comprendre que là, il a commis un péché. Lui, le roi, il a commis un péché devant l'Éternel. Un péché d'avoir pris l'épouse d'autrui et d'avoir commis un meurtre. Et le psaume 51, versets 3 à 9, on voit David qui va tomber dans une profonde repentance devant l'Éternel. Il dira, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. » Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Est-ce que nous savons encore dire, frères et sœurs en Christ, quand nous commettons des actes, que nous péchons contre l'Éternel? Là, il avait pris la femme d'un autre, il a tué Uri. Et il dira, j'ai péché contre toi seul. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous pousser jusqu'à ce que nos lèvres disent, nous avons péché contre toi, Éternel. J'ai commis une faute contre toi. J'ai mal agi dans telle et telle situation. Peut-être même dans des relations fraternelles. J'ai mal agi avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec un collègue de travail. J'ai laissé des forteresses rentrer. C'est envers toi, Éternel, que j'ai mal agi. J'ai péché contre toi. Est-ce que nos lèvres, est-ce que notre cœur est encore capable de dire cela devant l'Éternel lorsque Dieu nous reprend? Ou est-ce que vite, on étouffe, vite on repart? Est-ce qu'on sait laisser l'Éternel attraper notre cœur et l'entendre encore et venir dans cette repentance où on va se mettre à genoux et pas juste du bout des lèvres, nous allons dire « Oui, Éternel, j'ai péché contre toi, mais je sais que tu es bon. Et je reconnais mes transgressions. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. L'Éternel veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Pas juste sur nos lèvres, au fond de notre cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pure. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Alléluia. Est-ce que de telles paroles peuvent sortir de notre cœur? Et un style de vie, je disais, parce que là, c'est lorsqu'il va pécher avec Bathsheba. Mais il y a d'autres psaumes de David où on ne sait pas forcément ce qu'il a commis comme péché. Mais il dira à l'Éternel, psaume 32, verset 5. Il dira, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Le psaume 86, verset 5. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Et psaume 19, verset 13, là on va voir à quel point David est en alerte, il est affûté. Il dit, qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Lui qui, avec Bathsheba, il a été dans l'engrenage, un peu comme Pierre, d'un coup, hop, il renie trois fois Jésus. Et il y a des temps où il est même devant l'Éternel en train de dire, pardonne même les péchés que j'ignore, ceux pour lesquels je suis encore dans l'ignorance. Parce qu'il était emprunt à être complètement devant l'Éternel, à vouloir être dans cette sainteté, à vouloir être proche de Dieu, à vouloir être dans sa présence. Alors il dira, mais Seigneur, pardonne-moi même celui que j'ignore, parce que je sais que devant toi, ça t'est insupportable. La conviction de péché qui va animer la repentance et le fait que nous allons de tout notre cœur revenir à l'Éternel. Accepter les corrections, accepter que Dieu nous reprenne. Et Paul, lui, il dira même, les tribunaux des hommes, ce que le monde voit de moi, le regard des hommes, je m'en fiche. Je sais une chose, c'est que Jésus me juge. Jésus vient et me dit, là, tu dois être comme ça, là. Il savait, il aime même Paul dira même pour sa conscience, en fait, il savait que la conscience, notre conscience nous aide à dire ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais il dira que la voix, en fait, quand il dit Jésus me juge, c'est la voix de Jésus-Christ qui vient, la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs qui est plus forte encore même que notre conscience et que notre connaissance et qui vient dire là, demande-moi pardon du fond de ton cœur et pas juste du bout des lèvres. Et si David, si Paul savait être des hommes de cette nature-là, de cette trempe-là, eux les grands, eux les héros, c'est parce qu'ils avaient confiance également, ils avaient la conviction de la justification de Dieu pour leur vie, de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice. Et 1 Jean, chapitre 1, verset 9, dira, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous sommes plus blancs que la neige. Nous portons des vêtements blancs devant le Seigneur. Et lorsque nous serons devant lui, tout ce que nous avons commis, tous nos péchés, lorsque nous ne les connaissions pas, mais toutes nos chutes aussi, lors de notre marche chrétienne, sont effacées. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de Jésus purifie chacun de nos péchés. Chacun de nos péchés est purifié par le sang de Jésus à la croix. Alléluia. Et Paul et David, avec cette certitude, ils se laissaient convaincre de péché parce qu'ils savaient qu'ils trouveraient un Dieu juste, un Dieu bon dans la sentence, un Dieu bon qui les pardonnerait, qui leur dirait « Mais j'ai effacé ton iniquité, je ne m'en souviens plus ». Alléluia. Nous devons avoir la certitude de la justification. Paul dira la cuirasse de la justice, nous devons la porter. Parce que Satan, il fera une chose, il viendra te condamner jour après jour. Et là, tu rentres dans l'autocondamnation qui mène à quoi ? À la dépression. Parfois, les gens sont dépressifs, sont tristes parce que Satan est venu les condamner et les recondamner et encore en leur rappelant tous les péchés qu'ils ont commis. Et parfois, tu te rappelles tellement de tout ce que tu as commis que tu ne sais même plus te rappeler du pardon de Dieu pour ta vie. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, nous sommes appelés à porter ces armes. J'aimerais aussi nous encourager à nous dire que oui, nous sommes convaincus de péché, nous sommes amenés à marcher dans ces convictions de péché qui vont animer une repentance et la repentance va nous faire trouver un Dieu saint, un Dieu plein de bonté, plein de pardon pour nous. Un Dieu qui a donné son Fils aussi pour notre sanctification et pour notre rédemption. Nous avons été rachetés à la croix. Tu es amené à avoir des convictions de péché parce que nous pouvons être libres. C'est pas juste tomber en disant pardonne-moi et demain je recommence. C'est tu as la liberté, tu as le pouvoir de dire non au péché. Et ça, c'est le triomphe de Christ. Le triomphe de Christ pour nos vies. Colossiens 2, versets 13 à 15. J'aimerais que nous nous rappelions ce matin, ou peut-être que tu es là pour la première fois, que tu découvres l'œuvre de Christ à la croix. Voilà le rachat que Christ a fait pour nous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, un triomphant d'elles par la croix. Et là, on peut applaudir le Seigneur. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans Tite 2, verset 14, chapitre 2, pardon, verset 14, il est dit « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Nous nous appartenons plus à nous-mêmes, nous n'appartenons pas à Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur nous, le péché, Paul dira, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous appartenons à Jésus-Christ seul. Lorsque le péché vient tapis devant notre porte, lorsque l'ennemi vient te ressasser tes péchés, tes anciens péchés, tes occasions de chute, tu as la rédemption, tu as la justification auprès de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple qui lui appartient. Nous appartenons à Jésus-Christ. Satan n'a plus de droit sur ta vie. Jésus a des droits. Jésus peut tout nous réclamer. Jésus réclame tout notre cœur, toute notre vie. Parce qu'il a donné sa vie à la croix. Tu peux regarder ton voisin et lui dire que ta vie, c'est le prix de Jésus à la croix. Nous avons cette valeur-là. Cette liberté que nous avons, c'est au prix de Jésus-Christ. Au prix de Jésus-Christ sur la croix. Alors nous lui appartenons, nous sommes purifiés et zélés pour les bonnes œuvres. Et dans notre marche chrétienne, et ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est que Jésus, son sang, nous sanctifie. Hébreux 10, verset 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit cela, c'est parce que Jean-Baptiste dira, il a ôté le péché du monde. Notre nature est changée, notre vieil homme est cloué sur le bois, est cloué avec Jésus-Christ. Et lorsque nous ressuscitons, lorsque nous relevons du baptême, lorsque nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ dans les cieux célestes. Nous sommes assis avec lui. Tu as une position d'autorité. Une position d'autorité. Alléluia. Et ça, la conviction de péché, lorsque tu te laisses convaincre de péché, lorsque tu vas dans la repentance, lorsque tu rencontres le Dieu saint, lorsque tu tombes à genoux comme David, comme Paul, comme Daniel, comme Moïse devant l'Éternel, où tu trembles devant l'Éternel parce que tu goûtes à sa sainteté, c'est le triomphe de Christ sur ta vie. C'est le triomphe de Christ. Voilà tout le processus de la conviction de péché dans nos vies et qui doit demeurer. Ce n'est pas juste au début. Ce n'est pas juste au début. C'est jusqu'à la fin où nous devons nous laisser sonder par Dieu pour marcher en sainteté de vie, pour être réellement libre. Comme Sandy nous l'avait prêché cet été, vraiment libre. Et parfois nous manquons de liberté parce que nous ne sommes pas forcément convaincus déjà de péché. Nous ne sommes pas convaincus de la sainteté de Dieu. Nous ne sommes pas convaincus de la justification que nous avons en lui. Et nous ne sommes pas convaincus de la sanctification et du rachat. Nous ne sommes pas convaincus du pouvoir que nous avons sur le péché. Du pouvoir alors qu'il a tout accompli. Il a dit c'est fait, c'est fait. Et nous ne sommes pas pourtant convaincus. Et c'est Martin Luther King qui disait ça au niveau des droits qu'il voulait avoir. pour dans la lutte des droits. Il dira finalement on peut avoir autant de droits qu'on veut, mais tant qu'on les laisse pas travailler en nous, ils nous libèrent pas. Jésus pourrait nous donner une multitude de droits, il nous a conféré le plus grand droit face au péché. Mais tant que tu n'en as pas conscience, tant que tu demeures dans l'ignorance, tant que tu pratiques pas le non au péché, tant que tu pratiques pas la nouveauté de vie, tu te rends pas compte de toute la puissance et de toute l'autorité que tu as en Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais nous encourager, parce que nous en parlons beaucoup avec eux, pour nos vies personnelles. Mais nous sommes une église, nous sommes un saint sacerdoce, une race élue, une nation sainte, nous dit la parole de Dieu. Vous pouvez retrouver ça dans la lettre de Pierre. Nous sommes une église qui est appelée à marcher de victoire en victoire, parce que Dieu reviendra chercher une église sans tache, et parce que nous demeurons éternellement dans la gloire et la présence de Dieu. Apocalypse 21, verset 3. Jean, lorsqu'il nous livre tout ce qu'il aura vu dans la révélation que Dieu lui a accordée, il dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu même sera avec eux. » Et dans Apocalypse 21, on ne prendra pas mes versets 9 et 10, il nous est parlé de l'épouse de la ville sainte de Jérusalem. Ici-bas, nous formons le saint sacerdoce. Nous formons cette race élue, ce peuple choisi, racheté, purifié, qui appartient à Christ. Et dans l'éternité, nous serons cette ville sainte, cette Jérusalem qui descend du ciel, c'est-à-dire qui vient de l'œuvre de Dieu, qui vient de la gloire de Dieu. Et nous régnerons éternellement dans la présence de Dieu. Et comme Antoine nous encourageait la semaine dernière, il disait « Tenons fermement, gardons cette couronne et nous pourrons, comme les 24 vieillards, donner cette couronne devant Jésus. » Devant Jésus, dire « Voilà, j'ai achevé ma course. Église de Dieu, nous avons achevé notre course ensemble et notre identité, l'identité de l'Église qui marche dans cette liberté, dans ce renoncement de la chair, dans ce pouvoir face au péché, vit réellement sa réelle identité ici-bas, mais jusque dans l'éternité qui est de vivre dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Mais ce matin, et ce sera ma conclusion, l'Éternel te demande, où en es-tu avec tes convictions de péché? Qu'en fais-tu? Arrives-tu encore à aller devant lui et à te laisser convaincre de péché? Acceptes-tu de Dieu de sonder ton cœur? Une partie de ton cœur ou tout ton cœur? Ta vie entière devant l'Éternel sondée? Ou est-ce que tu laisses des forteresses? Es-tu le péché? Est-ce que tu le haïs? Est-ce que ta conscience, est-ce que tu es éveillé, réveillé? Est-ce que tu restes réveillé? Est-ce que ton cœur est comme de l'argile entre les mains du potier? Ou au contraire, parfois on commence à se cacher derrière notre éducation, nos imprégnations, nos traditions, notre vécu. Oui, tu peux être dans l'addiction, mais Dieu peut te aussi t'en délivrer, et il veut t'en délivrer. Et je l'ai vu de mes propres yeux, des hommes dans l'addiction être convaincus de péché et en être délivrés. Parfois, parce qu'on se cache derrière une sorte d'excuse, on se met de nouveau à flirter. Le problème, c'est qu'avec le flirt, c'est que la conscience, elle commence aussi à s'endormir, et que sans même s'en rendre compte, parfois notre cœur, il commence à s'endurcir. Peut-être que finalement, je te parle et que tu me diras, mais moi, Élise, je suis complètement dedans. Et j'ai peut-être même pu. Et parfois, on rencontre des hommes et des femmes qui n'ont même plus cette conviction de péché devant l'Éternel. Parce que leur conscience est complètement, Paul dira, flétrie et endormie. Et leur cœur s'est endurci. Et l'Éternel veut nous réveiller ce matin. Il veut que nous restions dans cette étroite relation de cœur à cœur, d'avoir un cœur sondé devant l'Éternel et que nous sachions encore lui dire, et jusqu'à notre dernier souffle, pardonne-moi Éternel, jusque même mes péchés que je ne connais pas et dont j'ignore encore. Et alors nous goûterons encore jour après jour au triomphe de Christ qui pardonne et qui lave encore nos péchés. Amen.
Amen.
Amen. Alors laissons Dieu, je vais laisser l'équipe de louanges revenir, et laissons Dieu nous sonder. Laisse-toi encore sonder ce matin par l'Éternel. Laisse-toi encore te convaincre de péché, de vérité.